questions dont la réponse pourra transformer votre vie. Comment se fait-il que Dieu répond à la prière des croyants? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse claire et instructive aujourd'hui à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, je crois qu'on peut s'attendre à recevoir un enseignement qui sera vraiment utile pour notre vie. Ma prière à Dieu, c'est qu'il touche chacun de nos cœurs par sa parole, qu'il nous transforme et nous amène à l'image de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Alors voici nos questions pour aujourd'hui. Est-ce que l'heure du jugement approche pour la terre? Quelle est l'utilité des trompettes dans le livre de l'Apocalypse? À quoi ont-elles servi dans l'Ancien Testament? Est-ce que c'est vraiment le son d'une trompette qui retentira à l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ? Quand Jésus reviendra sur la terre, apparaîtra-t-il comme un ange? À quoi le parfum est-il identifié dans l'Apocalypse? Comment se fait-il que Dieu répond à la prière des croyants? Qu'est-ce qui vient en premier, le tonnerre ou les éclairs? Est-ce que les sons de trompette et les plaies décrits dans l'Apocalypse sont seulement des symboles? Demeurez avec nous, nos réponses s'en viennent. Le pasteur Jean Joly est sur le point de nous enseigner la parole merveilleuse de Dieu. Mais premièrement, prions. Seigneur, on en connaît très peu quand on voit tout ce que tu nous enseignes. Tout ce que tu vas nous enseigner simplement aujourd'hui. On aimerait, Seigneur, que ça ait un impact dans notre vie, pour que tu sois davantage glorifié en chacun de nous. Touche nos cœurs, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu qu'après une pause entre l'ouverture des sixième et septième sceaux, le jugement de Dieu allait tomber sur l'humanité rebelle au son de sept trompettes. Ces trompettes seront suivies de sept personnages, eux-mêmes suivis de sept coupes de colère. Le calme avant la tempête. L'heure du jugement approche pour la terre, mais auparavant, un calme inquiétant s'installe. Les gens doués de sensibilité spirituelle savent que l'ouragan se prépare, il y a de l'ozone dans l'air. Avec les soubresauts météorologiques de plus en plus fréquents et importants à travers le monde, nous sommes nombreux à avoir vécu une expérience stressante face à l'assaut des éléments en furie. En voici une, vécue par J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous traduisons et interprétons les textes. Quand il était un petit garçon, son père construisait un abri à l'épreuve des ouragans dans la cave partout où il déménageait. Un soir, alors qu'il se faisait déjà tard, son père et le jeune garçon se tenaient debout dans l'entrée de l'abri. Le père observait un ouragan qui s'approchait et il a vu que le village où la famille vivait ne serait pas directement touché. La tempête est passée à une vingtaine de kilomètres. Il pouvait voir l'œil de la tempête se former. Mais, juste avant cela, un calme immobile s'est appesanti sur tout le village. Avant cela, le vent avait soufflé assez fort et la pluie était tombée, accompagnée d'éclairs et de tonnerres. Mais soudain, tout s'est arrêté. Pendant quelques instants, les oreilles habituées au bruit se tendaient à la recherche d'un autre stimulus. Seul un silence de mort planait sur la contrée. Ensuite, un vent s'est mis à souffler. Un vent comme le jeune garçon n'en avait jamais entendu auparavant. Ce n'était pas un cyclone ou une tornade, seulement un vent très fort. Mais Maggie se rappelle être resté plusieurs minutes pendu avec son père à la chaîne de la porte qui menait au sous-sol afin de l'empêcher de s'ouvrir et, sans doute, de s'envoler. La tempête a soufflé avec puissance et furie. Mais tout cela est peu de chose comparé à la grande tribulation à venir. Mais on peut retenir la séquence, car elle sera la même. Quelques soubresauts avant-coureurs, suivis d'un calme inquiétant avant la grande conflagration. Celle-ci sera introduite au son des trompettes. Elles sont le sujet du passage suivant, qui commence au verset 2 du chapitre 8 et se poursuit jusqu'au chapitre 11. le contexte des sept trompettes. Chers amis, lisons Apocalypse, chapitre 8, le verset 2. « Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. » Ces sept anges nous sont présentés comme un groupe particulier. Je suis d'avis que l'ange Gabriel fait partie de ce groupe, car la Bible nous enseigne qu'il se tient normalement devant Dieu. Lorsqu'il annonce la naissance de Jean-Baptiste au vieux Zacharie, il s'identifie ainsi. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 1, verset 19. « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. » Le prophète Isaïe, chapitre 6, verset 1 et 2, nous apprend aussi que les séraphins sont un autre groupe d'anges qui se tient devant Dieu. « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont ils se couvraient la face, deux dont ils se couvraient les pieds, et deux dont ils se servaient pour voler. » Toutefois, les sept anges de notre passage semblent être d'un ordre différent des séraphins, car leur mission et leur service ne leur ressemblent en rien. Pour bien comprendre le sens des sept trompettes, nous devons bien comprendre le contexte de la culture israélite. Après tout, le son d'une trompette n'aura pas les mêmes connotations pour un musicien de jazz et pour un soldat. Pour cette raison, je préconise une connaissance minimale des coutumes de la nation d'Israël au temps de l'Ancien Testament afin de pouvoir bien comprendre le livre de l'Apocalypse. L'apôtre Jean était issu de cette culture, et quand il cherche à nous partager ce qu'il a vu et entendu, il puise dans sa mémoire pour y trouver quelque chose de semblable. Dans le livre des Nombres, Dieu donne ses directives à Moïse concernant la fabrication de deux trompettes en argent. Dans la Bible, le chiffre 2 est le chiffre des témoins. Dans Deutéronome 19, verset 15, Dieu prend des dispositions contre les faux témoignages. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins. Ce principe est repris par Jésus dans Matthieu chapitre 18, verset 16. « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. » Et par l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 1. « Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins. » De même, nous verrons plus tard Dieu réaffirmer ce principe dans Apocalypse chapitre 11, verset 3. « Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. » Le signal des trompettes. De plus, les deux trompettes étaient utilisées à l'époque de l'Exode pendant les 40 années dans le désert. Elles servaient, premièrement, à convoquer l'assemblée et, deuxièmement, afin de rassembler le peuple lorsqu'il devait reprendre son périple, comme on peut le voir dans Nombre chapitre 10, verset 2. Fais-toi deux trompettes d'argent. Tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand Israël est entré dans la terre promise, les trompettes ont servi à deux autres choses, décrites toujours dans le livre des Nombres, chapitre 10, versets 9 et 10. Lorsque, dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. D'autre part, une seule trompette retentissait dans le désert pour convoquer les princes au verset 4. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël, se réuniront auprès de toi. À mon avis, cette seule trompette correspond à la dernière trompette mentionnée dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Cette trompette servait à rassembler un certain groupe à l'intérieur de la nation d'Israël. Or, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous mentionne cet épisode dans 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 51 et 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Malheureusement, certains commentateurs confondent cette dernière trompette dans la première épître aux Corinthiens avec la septième trompette dans l'Apocalypse. Or, il n'existe aucun lien entre les deux. Écoutez encore l'apôtre Paul, cette fois dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est le Seigneur lui-même qui donne le signal avec une voix d'archange et avec un son qui ressemble à une trompette de Dieu. » Nous en avons la preuve dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, verset 10. « Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Cette voix forte, comme le son d'une trompette, est celle du Seigneur Jésus. Elle ressemble à la voix d'un archange et au son d'une trompette, mais en réalité, c'est la voix du Seigneur Jésus qui ressuscitera les morts, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. De la même manière, le Christ glorifié appellera hors de ce monde les membres de son Église juste avant la grande tribulation. Ceux qui appartiennent au Seigneur, les morts comme les vivants, répondront à cet appel. Il ne faut donc pas confondre le son de la dernière trompette avec le son de plusieurs trompettes. La signification des signaux. Dans la préfiguration de l'Ancien Testament, une seule trompette convoquait simplement une partie du peuple, à savoir les princes et les chefs d'Israël. Par contre, le son de plusieurs trompettes signalait le moment du départ pour l'ensemble du peuple. Bien sûr, quand plusieurs milliers de personnes doivent lever le camp en même temps, cela doit se faire dans l'ordre et selon une séquence clairement déterminée. Chaque section du peuple se mettait en marche à un signal donné. Les 12 tribus d'Israël étaient séparées en 4 groupes, et chacun de ces groupes établissait son campement sur un des côtés du tabernacle. De plus, 3 familles de la tribu de Lévi transportaient le matériel rattaché à ce tabernacle. Ses fils de Lévi s'appelaient Gershon, Kehath et Merari. En additionnant ces 3 familles aux 4 groupes, nous pouvons conclure qu'il fallait sonner de la trompette 7 fois pour que l'ensemble du peuple lève le camp. Lorsque la première trompette retentissait, la famille de Kehath partait en emportant avec elle l'Arche de l'Alliance. Elle était suivie de la tribu de Juda, accompagnée de 2 autres tribus qui voyageaient sous la bannière de Juda. Tout se faisait dans l'ordre au son de chaque trompette. Chaque personne prenait sa place. Sans cet arrangement, il aurait été facile de perdre des membres du peuple dans le désert. S'il y avait eu des retardataires, ils auraient pu facilement se laisser surprendre par une brusque tempête dans le désert. L'apôtre Paul disait que tout devait se faire dans l'ordre lorsque l'Église adorait Dieu. Il est parfois bon de se demander si nos adorations du dimanche matin sont faites avec le même soin que les déplacements du peuple d'Israël pendant son périple dans le désert. Pour le moment, notons particulièrement que le peuple d'Israël s'ébranlait au son des 7 trompettes. Les 7 trompettes de l'Apocalypse auront le même effet positif. Elles appelleront le peuple d'Israël afin qu'il prenne possession de la terre promise. Je pense que ces 7 trompettes seront nécessaires pour que l'ensemble d'Israël réintègre la terre promise. Pour cette raison, je ne crois pas que l'occupation actuelle de la Palestine par le peuple d'Israël soit un signe de l'accomplissement de cette promesse. Cela arrivera seulement pendant la grande tribulation, quand les 7 trompettes retentiront. Israël répondra à ce signal, tout comme il lui répondait au temps de l'Exode dans le désert. Après l'appel de la 7e trompette au chapitre 12, Israël est identifié comme l'objet de la protection spéciale de Dieu. une compréhension claire des trompettes nous empêche d'identifier la dernière trompette de l'Église avec les sept trompettes de l'Apocalypse. Tout comme les trompettes utilisées par Israël pour faire tomber les murs de Jéricho, les murailles d'opposition à la volonté de Dieu s'effondreront au son des sept trompettes de la grande tribulation. Quand le Seigneur Jésus reviendra, il mettra fin à toute trace de rébellion envers sa volonté et envers la volonté de Dieu. Il établira alors son royaume sur la terre. L'Apocalypse est le livre du triomphe de Dieu et son peuple pourra alors se joindre à l'universelle chorale d'action de grâce et d'adoration. L'ange à l'encensoir auprès de l'autel. Apocalypse chapitre 8, verset 3. Et un autre ange vint. Et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Cet autre ange n'est assurément pas notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne tient plus le rôle d'intercesseur auprès du Père en faveur de l'Église, car celle-ci n'est plus sur la terre. Nous avons déjà vu au chapitre 4 et 5 qu'il a pris la position de juge lorsque le livre aux sept sceaux lui a été remis. À partir de là, Jésus-Christ a contrôlé le déroulement des opérations. Il ne fait plus partie des acteurs sur la scène terrestre. Il se trouve dans les cieux avec son Église. Il ne remplit plus l'œuvre d'intercession qui était la sienne au temps où son Église était sur la terre. Il exerce maintenant les fonctions de juge. Il tient le livre aux sept sceaux et il dirige toutes les activités à partir de son trône. L'ange dont il est question ici est donc simplement un autre ange. Il ne peut pas être confondu avec le Seigneur Jésus, même s'il est exact de dire qu'avant son incarnation sur la terre, il y a 2000 ans, Jésus était connu dans l'Ancien Testament sous le nom d'ange de l'Éternel. Il n'apparaîtra plus jamais comme un ange. Il apparaîtra dans son corps glorifié, de la même façon qu'il est apparu à ses disciples après sa résurrection. Un jour, ceux et celles qui lui appartiennent le verront aussi de cette manière. Et ils seront eux-mêmes transformés, comme l'enseigne 1 Jean chapitre 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. L'autel d'or est l'endroit où les prières sont offertes. Mais Jésus-Christ n'occupe plus la fonction d'intercesseur devant cet autel, car il est maintenant assis sur le trône. L'encens est ici identifié à la prière, comme elle l'était au temps du roi David dans le psaume 141, verset 2. « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens. » L'encens nous parle de la valeur du nom de Jésus-Christ et de son œuvre lorsque nous prions. Dans l'évangile de Jean, il nous enseigne à prier en son nom et il nous fait cette promesse dans l'évangile de Jean chapitre 14, les versets 13 et 14. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, « je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Plusieurs croyants sincères ont aujourd'hui pris l'habitude de terminer leur prière en disant simplement « Amen ». Le 2 m'a déjà affirmé qu'il était inutile et redondant de dire « au nom de Jésus », car dans notre cœur nous prions « au nom de Jésus ». Je suis d'accord pour dire que prier au nom de Jésus va plus loin que simplement rajouter la formule « au nom de Jésus » à la fin de notre prière. Par contre, si vous faites une prière au nom de Jésus, et tout particulièrement une prière publique, assurez-vous de dire que vous la faites au nom de Jésus. Je considère cela très important. Ici, ils offrent un encens de bonne odeur. Quand nous prions Dieu, il ne nous entend pas parce que nous utilisons beaucoup de paroles ou un langage fleuri. Il nous entend parce que notre prière est faite au nom de Jésus. Il est intéressant de noter que cet encens a été donné à l'ange. Or, le Seigneur Jésus-Christ n'avait besoin de rien d'autre lorsqu'il priait. Par ailleurs, on se rappelle que les prières des saints ont été offertes lors de l'ouverture du cinquième sceau. dans Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11. Une réponse à la prière des saints. Lisons Apocalypse chapitre 8, verset 4. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Dieu répond maintenant à ses prières grâce à la personne et au sacrifice de Jésus-Christ. Verset 5. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le grand prêtre, prenait un encensoir avec lui en transportant le sang du sacrifice à l'intérieur du Saint des Saints, le lieu très saint. Ici, lors de ce rituel, nous voyons le trajet inverse, car l'encensoir est jeté sur la terre. En d'autres mots, les prières sont montées vers le haut comme de l'encens, et ensuite la réponse de Dieu descend sur la terre. Les saints de la grande tribulation avaient prié Dieu afin qu'il les venge. Les peuples de la terre, après avoir rejeté la mort de Jésus-Christ comme le seul paiement admis par Dieu pour leurs péchés, doivent maintenant faire face au jugement pour leurs propres péchés. Ils n'ont personne pour intercéder pour eux, car ils ont rejeté le seul être capable d'exercer cette fonction. Seul Jésus-Christ pouvait intercéder pour nous, car il est lui-même sans aucun péché. Les coups de tonnerre signalent l'approche de la tempête, du jugement de Dieu. Les voix révèlent la direction intelligente et volontaire de Dieu et non l'œuvre aléatoire des forces naturelles. Dieu contrôle sa création. Les éclairs viennent après le tonnerre. Apparemment, il ne s'agit pas d'un renversement de l'ordre naturel. Si nous voyons habituellement les éclairs avant d'entendre le tonnerre, c'est simplement parce que les ondes lumineuses voyagent plus vite que les ondes sonores. En réalité, le tonnerre vient en premier, mais sur la terre, nous ne l'entendons pas avant d'avoir vu les éclairs. Le tremblement de terre est la réaction de la croûte terrestre à la pression intense exercée sur elle pendant le jugement de la grande tribulation. Chers amis, lisons notre dernier texte pour aujourd'hui, Apocalypse chapitre 8, verset 6. « Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. La demi-heure de silence arrive à son terme. Les prières des saints ont été entendues. L'ordre est donné de se préparer à faire sonner les trompettes. On peut presque imaginer les anges se mettant en garde à vous. Quand les trompettes retentiront, la colère divine tombera sur tous les hommes rebelles. Le son des trompettes ne représente pas des symboles ou des secrets. Les plaies qui frapperont l'humanité sont littérales. Cette méthode utilisée aujourd'hui, qui consiste à faire évaporer le sens des Écritures en les qualifiant de symboliques, revient en réalité à nier l'inspiration de la parole de Dieu. En d'autres mots, on dit que le Seigneur ne dit pas ce qu'il dit, mais que ses paroles ont une tout autre signification. Chers amis, la pensée de Dieu est la pensée de Dieu. À nous maintenant d'y porter une attention toute particulière, car Dieu dit par le prophète Isaïe que nos pensées ne sont pas les siennes. Alors à nous maintenant de cesser d'écouter les nôtres et de faire entendre celle de Dieu, celle qui nous conduit à la vie éternelle, celle qui nous conduit au bonheur, celle qui nous conduit en la présence de Dieu. À nous de profiter pleinement de la lecture de la Bible, cette parole inspirée, soufflée par le Saint-Esprit. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission, Apocalypse chapitre 8, les versets 7 à 13. Bonne lecture!
Merci Régent. J'aime tellement entendre la parole de Dieu. Quel encouragement pour ma vie. Mes amis, je souhaite de tout cœur qu'il en soit de même pour chacun de vous. Dieu nous aime et il aime se faire connaître à nous. On en a encore tellement à apprendre de lui, de ses désirs pour nous. Personnellement, j'ai besoin de savoir ce qui lui plaît et ce qui lui déplaît. Et sa parole nous l'enseigne quotidiennement quand on lit et qu'on médite les écrits de la Bible et quand on écoute les hommes qu'il a choisis pour nous l'enseigner avec encore plus de profondeur. On est vraiment bien au Canada. On a la liberté d'avoir la Bible en notre possession, la liberté de la lire, de la méditer, de l'entendre prêcher dans nos églises, ainsi qu'à la radio, à la télé. Il y a pas très longtemps, j'ai fait une tournée en Alberta. Et un prédicateur nous a présenté des montagnes sur PowerPoint. On y voyait des chrétiens dans d'autres pays où la parole de Dieu est interdite et le sacrifice que les croyants doivent faire pour répandre la parole de Dieu. Ils prennent des risques chaque jour pour avoir même une seule page de la Bible pliée dans leur poche. Imaginez combien cette page est précieuse pour eux. Ça me fait réaliser encore plus combien cette Bible entière doit être pour moi. Régent nous a aussi parlé de la prière aujourd'hui. Il la comparait au parfum, à l'encens de bonne odeur pour notre Dieu. Ça me fait penser à un chant qu'on fait souvent dans les milieux évangéliques aujourd'hui. Le titre est « Je te donne tout ». Permettez-moi de vous en citer les paroles. « Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. » Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon ami, as-tu donné ton cœur à Jésus? A-t-il frappé à la porte de ton cœur? As-tu répondu? Peut-être que tu voudrais, mais que tu ne sais pas comment faire. Alors laisse-moi te l'expliquer. C'est pas compliqué si tu prends tout simplement le Seigneur au mot. Jésus est mort sur une croix il y a environ 2000 ans. Tu es d'accord avec ça? Eh bien, la parole de Dieu dit qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mon ami, crois-tu en Jésus? Crois-tu qu'il est Dieu et qu'il est venu sur cette terre dans un corps comme le nôtre? Crois-tu qu'il est le seul qui soit venu sur cette terre sans jamais pécher et qu'il a été l'ultime sacrifice que Dieu a agréé pour effacer la dette de ton péché? Eh bien, mon ami, reconnais que tu es un pécheur ou une pécheresse perdue. La Bible dit que tous ont péché. Moi, je l'ai reconnu un jour. Maintenant, c'est à ton tour de le faire. Repens-toi. Repens-toi. Change de direction à l'égard du péché. Et demande à Jésus de te sauver. Demande à Jésus de te donner la vie éternelle. Et laisse-le prendre tout ton cœur. Qu'il soit ton Seigneur, qu'il soit ton Maître pour la vie. Demande-lui simplement, dis « Seigneur Jésus, je t'en supplie, sauve-moi. » Et il va le faire.
Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance.
Une minute, Régent. Est-ce que c'est compliqué, ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très, très intellectuel.
Rien de plus facile, Caro.
Oui.
Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison,
oui,
de nous commander ces petits livrets, et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions.
Est-ce qu'il y a beaucoup de
par cœur? En rapport avec le texte qu'ils auront lu, du par cœur. Quasiment pas de par cœur.
Oui, c'est intéressant.
C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi.
Pour mieux connaître Dieu.
Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant.
Ah, ça, j'en suis certaine, Régent.
Et il a des choses très importantes à partager avec nous.
J'ai le goût de m'inscrire.
Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance, à partir de chez vous. Pour toute correspondance.
Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
En composant le 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou via courriel
à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.